Chapitre 39. Pendant mes premières semaines de liberté, je n'ai pas su quoi faire. Plein aux as, impatient de mener la grande vie, j'ai pris une chambre dans un Best Western. Je me suis acheté mon premier jeu vidéo. J'ai passé 96 heures les yeux rivés sur l'écran jusqu'à ce qu'il soit injecté de sang. Et je me suis évanouie tellement j'avais mal au crâne. J'ai fait 8 km à pied jusqu'au magasin pour m'acheter un nouveau jeu, et pendant que j'étais là-bas, j'ai eu un coup de cœur pour un vélo Huffy. Alors je l'ai acheté aussi, et puis des nouveaux vêtements, et des dessous propres. Et ça m'a donné une telle sensation de bien-être que j'ai acheté à Henrietta son terrarium en verre, rien qu'à elle, avec des cailloux colorés et un petit abreuvoir. Je l'ai installé au-dessus de la télé, d'où elle pouvait me regarder jouer aux jeux vidéo toute la nuit, les mains tremblantes de manque de sommeil, le teint de plus en plus terreux. Pas moyen de me reposer. Pas moyen de me détendre. Pas moyen de quitter la porte des yeux. J'attendais qu'on frappe à la porte, que la porte s'ouvre sur le Burgerman qui se dessinerait dans l'embrasure avec son crâne sanguinolent défoncé. « Hé, petit !» criait-il dans mes rêves. « Tu croyais vraiment pouvoir tuer un monstre comme moi ?» Et là, il se mettait à rire, mais à rire, jusqu'à ce que je me réveille trempée de sueur et appelant absurdement ma mère. J'ai joué à beaucoup de jeux vidéo pendant ces premières semaines. Vers la troisième, le gérant me tenait à l'œil chaque fois que je venais prendre les bagels gratuits du petit-déjeuner. Un matin, il m'a demandé s'il pouvait voir une pièce d'identité. Paniqué, j'ai bafouillé comme un imbécile et je me suis repris, le temps de lui répondre qu'il fallait que j'aille la chercher dans ma chambre. J'ai couru tout du long jusqu'au magasin pour acheter 3 sacs de voyage bien costauds. De retour à la chambre d'hôtel, j'ai tout mis dans les sacs, y compris Henrietta. Dès qu'il a fait noir, on s'est tiré. Connard de gérant. J'ai trouvé une auberge de jeunesse, où je me disais que je me ferais moins remarquer au milieu d'autres adolescents solitaires. C'était pas terrible. Chambre spartiate, pas de télécommune. La première nuit, on m'a piqué mon vélo. La deuxième, ma console. On est reparti, Henrietta et moi. On allait d'un endroit à l'autre. Peu de sommeil, peu de nourriture, peu de temps pour se reposer. Fallait bouger en permanence. Le Burgerman venait. J'avais souhaité une vie meilleure. Je croyais que je vivrais dans un appartement propre, dans un joli quartier de la ville. Je croyais qu'après avoir enfin terrassé le dragon, je pourrais de nouveau être normale. Je me suis retrouvée précisément dans les rues dont le Burgerman avait fait son terrain de chasse, à fumer du crack et à faire ce que je pouvais pour ne jamais toucher terre. Ensuite, l'argent s'est épuisé. Je suis brutalement redescendue. Je me suis réveillée dans une mare de vomi et on m'avait tout volé, sauf le sac dans lequel vivait Henrietta. Alors j'ai compris pour la première fois que le Burgerman était vraiment mort. Plus question de courir se réfugier dans un appartement miteux. Plus besoin d'exiger 10 $ parce que je les avais gagnés. Plus de petits gâteaux qui apparaissaient comme par magie dans les placards. Le Burgerman était mort et j'étais seule. Inconsolable, j'ai pleuré comme un veau pendant des heures. Roulée en boule près d'une benne à ordures, terrifiée par ma solitude, écœurée par mes larmes inutiles. J'ai sorti Henrietta du sac de voyage et je l'ai posée sur mon épaule. Je l'ai suppliée de me mordre, d'abréger mes souffrances, de s'en donner à cœur joie. Elle s'est contentée de rester là, à me caresser le cou d'une patte velue jusqu'à ce que je me calme enfin et que je m'endorme en frissonnant. Quand je me suis réveillée, Henrietta était à 10 cm de moi en train de dévorer un cafard. Je l'ai observée un moment, admirant sa précision et sa délicatesse pendant qu'elle arrachait la tête du cafard, aspirait ses entrailles juteuses et commençait à réduire toute la carcasse en bouillie. Un autre cafard est passé par là. J'ai attrapé son gros corps entre mon pouce et mon index et je me le suis fourré dans la bouche. J'ai croqué une première fois et un ignoble liquide chaud et salé a jailli sur ma langue. J'ai recraché la bestiole, le cœur au bord des lèvres, et je me suis essuyé la bouche du dos de la main. Je laisserai les cafards à Henrietta. J'avais envie d'un gâteau. Seulement je n'avais ni argent, ni adresse, ni pièce d'identité valide. J'étais passée du statut de jouet du Burgerman à celui de voyou des rues. Alors j'ai fait ce qui s'imposait. Des propositions malhonnêtes, aussi premier passant. Rapidement, j'ai eu l'argent pour me payer l'hôtel cette nuit-là. N'avais-je que cela comme horizon ? Des journées interminables, à baisser mon froc devant des obèses poilus qui ne jouissaient qu'en baisant des gamins. Dans les bons jours, peut-être obtenir un joint ou une dose d'acide gratuite pour rendre tout ça moins réel, plus gérable. C'était Henrietta qui vivait dans une cage, mais c'était moi qui ne pouvais pas me libérer. Et c'est là que je me suis souvenue. J'avais encore les films du Burgerman, bien à l'abri sous le regard vigilant d'Henrietta dans ce dernier sac de voyage. Des heures et des heures de vidéos. Ces hommes-là adorent ce genre de merde. J'ai vendu la première cassette pour $50. Ça a tellement plu au gars qu'il s'est repointé 4 heures plus tard en me proposant $1,000,000 pour le tout. Il avait les yeux trop brillants, la bave aux lèvres. À cet instant précis, j'ai su que je tenais quelque chose. Je lui en ai vendu une autre pour $500 et je me suis rendue d'un pas décidé au magasin d'électronique le plus proche pour investir dans ma toute nouvelle occupation. Le directeur du magasin s'est montré très aimable, surtout quand il a compris qu'il s'agissait de films amateurs. D'un seul coup, il fallait qu'il me montre sa réserve. Sauf que cette fois, c'était lui qui était à genoux et moi qui avais le pouvoir. Ça m'a plu. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Bob m'a appris des trucs. Comment monter, découper et mélanger 3 heures de vidéos pour en faire 8 films amateurs différents que je pouvais tous revendre. Il m'a acheté mon premier ordinateur. Il m'a fait entrer dans les bons forums, où des utilisateurs qui se faisaient appeler « Défonceman » ou « Je veux de la chatte » m'ont donné les tuyaux pour démarrer ma nouvelle activité à domicile, la pornographie enfantine. J'ai appris à exploiter le grand marché international, où les sites commerciaux comme le mien peuvent stocker leurs précieuses images sur toute une série de serveurs, si bien qu'on peut difficilement remonter jusqu'à eux. Ou alors, quand les policiers sont devenus plus dégourdis, comment fragmenter une image et disperser ses composantes aux 4 coins du monde. L'ère du numérique nous rend la vie toujours plus facile. La pornographie enfantine s'adresse à tout un éventail de clients. À une extrémité, les consommateurs à la petite semaine, qui se contenteront de la photo coquine d'un enfant tout habillé mais pris dans une pose provocatrice. Et puis il y a les accros, purs et durs, les gros acheteurs. Ceux-là veulent des enfants de moins de 12 ans, des filles, en train de hurler. Comme n'importe quel business, la pornographie va là où est l'argent. Il y a plus de 10 000 sites internet en activité. Et 91% d'entre eux montrent des enfants prépubères en train de hurler. Il s'est avéré que Bob aimait ça. Et quand il a découvert que rien ne pouvait me choquer, ça lui a fait très plaisir. Tellement plaisir qu'il a commencé à me faire vraiment chier. Alors un jour, je suis allée dans son appartement et je l'ai tabassé à mort avec une batte Louisville. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était le printemps et que je sentais partout l'odeur de la terre fraîchement retournée. Ou peut-être qu'il avait plu la nuit précédente et que ça m'avait donné des envies de meurtre. J'ai pris son ordinateur, son matériel d'enregistrement et les faux papiers qu'il m'avait gracieusement procurés. Et nous avons de nouveau taillé la route, Henrietta et moi. Nous avons erré. J'étais plus âgée maintenant, moins voyant. J'ai acheté une voiture et trouvé un appartement bon marché. Un de ceux où les voisins ne remarquent jamais rien. Je passais mes journées sur Internet, sur des forums, YouTube, MySpace. Je me suis aperçue qu'on y trouve plein de gosses qui se sentent seuls et qui s'imaginent vraiment que je peux être leur amie. Et je me suis aperçue que beaucoup de parents sont encore plus naïfs que les miens. Dans la journée, je dormais par tranche d'une heure ou deux, et la nuit, je rôdais sur Internet. J'ai gagné beaucoup d'argent, et je m'en suis servie pour faire des provisions de tequila. Comme ça, quand je traversais une mauvaise passe, que l'obscurité descendait pendant des jours entiers et que je n'entendais plus que des hurlements d'enfants, les grognements du Burgerman ou le raclement d'une pelle qui creusait une terre bien tassée, je pouvais m'enfiler des bouteilles entières de tequila. J'offrais les verres à Henrietta, mais elle n'en voulait pas. Une nuit, alors que j'en étais à une demi-bouteille et que j'essayais d'expliquer à Henrietta à quel point j'avais besoin de sommeil, j'ai eu l'idée du siècle. Henrietta était là le jour où c'était arrivé. Elle m'avait aidée à tuer le Burgerman. Et pourtant, elle dormait tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'avec ses 8 yeux, elle pouvait voir dans toutes les directions. Alors je me suis rendue au salon de tatouage le plus proche, avec Henrietta sur mon épaule qui jouait avec mes cheveux. J'ai expliqué au gars ce que je voulais exactement. Et quand il a blêmi et tenté de me dissuader, j'ai largué 5 000 $ en liquide et je me suis assis, la bouteille de tequila toujours à la main. J'ai hurlé pendant les 5 heures qui ont suivi, jusqu'à ce qu'il ait fini. Ça m'a fait un mal de chien pendant un mois. J'avais le front enflé et chaud au toucher. Le premier jour où l'inflammation a régressé, j'ai dormi 4 heures d'affilée. J'ai dit à Henrietta qu'elle était géniale. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que j'allais vivre, que j'allais gagner. Henrietta m'avait sauvée. Et puis un jour, je l'ai vu. Il jouait au basket dans le parc. Petit, mais nerveux. Le gosse chétif qui a appris à compenser son manque de centimètres par la vitesse. Il a voulu faire un double pas et j'ai surpris son mouvement du coin de l'œil. Un instant, j'ai eu une sensation de déjà-vu tellement forte que ça m'a coupé le souffle. Le gamin me ressemblait, trait pour trait. 20 ans plus tôt, à l'époque où j'avais un nom, une famille, un avenir. Et j'ai su ce que je devais faire. Vous vous croyez en sécurité. Classe moyenne, banlieusard, la bonne voiture, la jolie maison. Vous croyez que les malheurs n'arrivent qu'aux autres. Par exemple aux abrutis qui vivent dans des villages de mobilhomes, où la proportion de délinquants sexuels fichés par rapport au nombre d'enfants est parfois de 1 sur 4. Mais pas à vous. Jamais à vous. Vous êtes trop bien pour ça. Est-ce que vous avez un ordinateur? Parce que dans ce cas, je suis dans la chambre de votre enfant. Est-ce que vous avez un profil personnel en ligne? Parce que dans ce cas, je connais le nom de votre enfant, son animal de compagnie et ses loisirs préférés. Est-ce que vous avez une webcam? Parce que dans ce cas, j'essaie en ce moment même de persuader votre fils ou votre fille d'enlever son t-shirt en échange de 50 $. Juste un t-shirt. Où est le mal? Allez, c'est 50 $. Écoutez-moi, je suis le Burgerman. Et je viens vous prendre. Chapitre 40. L'araignée Portia est une véritable cannibale. Elle se faufile discrètement sur la toile d'une autre et tire sur la soie. Croyant avoir capturé un insecte, la propriétaire de la toile s'approche de l'intruse, qui passe alors à l'attaque, tue et dévore sa proie surprise. Tiré de Freaky Facts About Spiders, C. Morley, 2007. Au début, Kimberly ne vit rien. Puis le vent se mit à souffler et elle aperçut la forme, qui oscillait doucement à 15 mètres au-dessus d'elle, presque comme une pomme de pin, mais en beaucoup plus gros. « Rachel, Harold !» s'exclama-t-elle avec animation. « Tout le monde, regardez au-dessus de vous. Les corps sont dans les arbres. Ils sont suspendus aux branches. » Elle eut vaguement conscience que d'autres gens se levaient d'un bond avec des cris de surprise et prenaient du recul pour examiner les branchages au-dessus d'eux. Mais surtout, elle ne quitta pas des yeux une forme tout en longueur, emmaillotée dans un tissu chiné vert et brun. Elle distinguait à présent l'extrémité mince de pieds ligotés et au-dessus, les épaules plus larges, la forme arrondie d'une tête. On aurait dit une momie égyptienne, enveloppée dans du tissu et de la corde, puis suspendue pour l'éternité. Le vent souffla à nouveau et la longue forme élancée se balança avec une quiétude sinistre qui hérissa les poils des avant-bras de Kimberly. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» murmura Sal à côté d'elle. Derrière eux s'éleva un autre cri, puis un autre, à mesure qu'ils repéraient les silhouettes macabres pendues au-dessus d'eux. « Il se prend pour une araignée, tu te souviens ?» murmura Kimberly. Alors il les a enveloppés dans un cocon et accrochés dans sa toile. « Bon sang, c'est pas étonnant que personne ne les ait jamais trouvés. Qui pense à regarder en l'air ?»« De la soie !» indiqua Quincy derrière eux. « Des vieux parachutes de l'armée, à vue de nez. De la soie parce que c'est cohérent. Du camouflage militaire parce que ça se confond mieux avec les arbres. »« Du nylon !» corrigea Kimberly. « Aaron me l'a dit. Pour des raisons pratiques. La soie est fragile, elle se décompose complètement en moins de 35 mois. Pareil pour la laine. Le coton fait un peu mieux, il résiste jusqu'à 48 mois, mais le nylon ne présente aucun signe de détérioration, même au bout de 4 ans. C'est ce qu'on fait de plus solide comme tissu. Son père la regardait avec un petit sourire. « Un point pour toi, beau travail, agent. »« Oh, attends encore un peu avant de t'attendrir sur moi. Je n'ai toujours aucune idée de la manière dont nous allons descendre ces cadavres. » Harold était revenu au centre de la clairière, Rachel aussi. Kimberly et Sal les rejoignirent, se regroupant pour un conseil de guerre pendant que les adjoints et les membres de la brigade de relevé d'indices continuaient à scruter les branches. « On a au moins une dizaine de corps !» s'exclama Harold. « J'ai planté un fanion jaune au pied de chaque arbre, du côté où le corps est suspendu. »« Il va nous falloir le tachéomètre électronique, » déclara Rachel, qui se mordillait la lèvre en réfléchissant à la suite des opérations. « C'est la seule manière de cartographier une scène de crime qui se trouve littéralement dans les airs. » J'appelle en bas, je demande à George et Louise de le monter. Mais il va nous falloir une balise pour nous servir de référence. Harold ? Je peux regarder sur la carte de l'Institut de géologie que j'ai dans mon sac. Sinon, le poste de commandement peut aller voir sur leur site internet la balise la plus proche. Je suis sûre qu'elle est relativement accessible. Les gars de l'Institut n'aiment pas plus que nous crapahuter dans les broussailles. Bien, on fait monter le tachéomètre électronique, on se cale sur un point de référence... Et ensuite, on commence à cartographier le site dans son ensemble avant de faire les relevés pour chaque corps considéré comme une mini-scène. À ce propos, il va nous falloir des rouleaux de papier de boucherie, des sacs mortuaires, des sacs à pièces à conviction pour les cordes et des civières pour descendre les corps de la montagne. On devrait aussi passer un coup de fil au cabinet du légiste pour qu'ils organisent le transport. Voyons, ça nous laisse encore le groupe électrogène, les projos... « Est-ce que je peux faire monter un Green Gator par la piste qu'on vient d'emprunter ?»« Non, » dit Harold. « Un autre chemin ?»« Non. »« Merde !» dit Rachel en recommençant à se mordiller la lèvre. « Je demande deux autres équipes en renfort. Si on doit monter tout ça à pied, il va nous falloir plus de main-d'œuvre.
Hé, hé, hé !»
Nouveau cri montant des profondeurs des sous-bois.
« Ça bouge !»« Je vous jure, celui-là est vivant !»«
Nom d'un chien !» dit Rachel, et ils se mirent tous à courir.
Il nous faudrait une échelle, disait un adjoint. Non, attends, je peux le faire tomber avec une balle, déclara un autre.
Rachel s'interposa entre les deux agents en uniforme et se posta résolument sous un pin touffu.
On recule, les corps, ça me regarde.
Les adjoints reculèrent. Les mains sur les hanches, Rachel examina la forme enveloppée au-dessus d'elle. Kimberly aperçut le mouvement en même temps que son chef d'équipe. Un renflement en bas, puis une légère ondulation plus haut. Un nouveau frisson lui parcourut la nuque, et elle devina à l'air soucieux de Rachel que sa supérieure non plus ne croyait pas que le corps était vivant. Harold, interrogea simplement Rachel. Je ne sais pas, dit-il d'une voix sourde que Kimberly ne lui connaissait pas. Il faut qu'on vérifie, murmura Rachel. « Juste au cas où, on ne sait jamais. » Mais elle n'avait pas l'air enchantée. Elle avait l'air très inquiète. La responsable d'équipe prit une grande inspiration. « Bon, on étale une bâche, juste ici. » Elle désigna une zone avec son doigt, à peu près en dessous du cocon suspendu. « Il va falloir qu'on descende l'objet sur la bâche pour pouvoir le déballer en toute sécurité. Harold ?» Il s'était approché du tronc, qu'il effleurait maintenant du bout des doigts. Tu vois ces trous, à intervalles réguliers ? Je crois que notre individu a des chaussures à pointe, peut-être comme celles que portent les ouvriers de maintenance pour escalader les poteaux téléphoniques. Il s'en est servi pour grimper à l'arbre et lancer la corde par-dessus les hautes branches. Ensuite, il pouvait redescendre et tirer sur l'extrémité de la corde. Il faudrait être assez costaud, mais il y a peut-être un système de poulies là-haut. Ou alors il avait de l'aide. Ou les deux.
Tu saurais dire quel genre de corde ? Demanda Rachel. « Voyons ça, » dit Harold, qui sortit une paire de jumelles et commença à les régler. « On dirait du nylon. »«
Merde, tout le truc se trémousse maintenant. »« Rachel, je crois pas... »« je sais, mais il faut qu'on soit certain, Harold. C'est le seul moyen. » Harold prit une inspiration pour se calmer. « Je vais grimper. » Il testa quelques branches avec sa main. « Je crois que je peux monter suffisamment haut pour me pencher et couper la corde sans toucher au nœud. »
Et comme ça, la malheureuse pourra venir s'écraser au sol ? Demanda Rachel.
Ouais, bon. Je vais grimper, reprit Harold. M'approcher de la corde et voir ce qu'on peut faire.
D'accord, fais ça. Harold enfila une paire de gants de protection en cuir et commença l'ascension, progressant avec précaution de branche en branche.
Sal s'approcha de l'endroit d'où Kimberly observait l'opération.
Comment on descend un corps d'un arbre ? Demanda-t-il.
Aucune idée, murmura-t-elle. La question n'a jamais été abordée pendant mes cours de récupération de cadavres.
Ce corps n'est pas en vie, si ?
J'en doute.
Alors qu'est-ce qu'il fait bouger ?
On le saura bien assez tôt. Harold était à 10 mètres du sol et, à présent couché sur une branche, il se rapprochait peu à peu du corps. La branche ployait dangereusement. Harold siffla avec nervosité.
« J'ai trouvé le bout de la corde, » dit-il. « Il a toute une installation élaborée là-haut. À ce que je vois, la corde fait le tour de plusieurs branches, presque comme un système de poulies. Je crois que si j'entaille la corde ici, que je monte sur la branche la plus haute et que je tire d'un coup sec, je pourrais peut-être récupérer assez de mou pour descendre le corps jusqu'au sol. Pas trop loin, en tout cas.
« Pas loin comment ?» demanda Rachel.
« Mais j'en sais rien, putain !»
s'exclama Harold avec exaspération. L'étonnement se peignit sur les visages de Rachel et Kimberly. C'était la première fois qu'elle l'entendait jurer. Il parut se reprendre, s'obstiner courageusement.
« On pourrait essayer avec une échelle » commença-t-il à dire.
Et puis... Oh merde! Le corps bougeait à nouveau. Le nylon se gonflait sous les croisillons de la corde qui entourait la forme momifiée. Ça ne ressemblait pas à des bras et des jambes qui lutteraient pour se libérer. Cela semblait extraterrestre. Une nouvelle forme de vie qui ondulait sous la surface.
« Rachel ?» appela Harold d'une voix tendue.
« D'accord, fais au mieux, mais préserve le nœud. »«
Sans blague, Sherlock !» marmonna Harold, ce qui lui valut d'autres mimiques étonnées.
Il eut le bruit de cisaillement lorsque Harold entailla la corde, puis un profond soupir anxieux avant qu'il reprenne son ascension vers le point le plus haut du système de poulies. Cette branche était sensiblement plus fine que la précédente, et pendant qu'Harold se couchait à nouveau à plat ventre, elle commença à fléchir. Puis plusieurs choses se passèrent en même temps. La corde cassa net à l'endroit où elle avait été cisaillée et remonta dans l'arbre avec un mouvement de fouet cinglant. Harold cria, attrapa le fil de nylon avec ses mains gantées et tout le corps descendit brutalement de 5 mètres avant de s'immobiliser d'un coup.
« Putain de... » s'exclama Harold. « Je peux pas... Ça va... Merde !»
Il lâcha l'extrémité et le corps descendit encore de 5 mètres avant que la corde ne s'en mêle et que le corps ne s'immobilise avec une embardée. Harold ne perdit pas une seconde et se laissa glisser le long du tronc dans un déluge d'aiguilles vertes. Il rejoignit les plus basses branches et rampa vers la corde pour s'en saisir à nouveau.
« Chaud devant !»
Il démêla la corde, le corps tomba, et 2 adjoints se précipitèrent pour le recevoir et le déposer en douceur sur la bâche qui attendait. D'aussi près, on distinguait aisément la silhouette bien ligotée d'un corps humain, enveloppé dans un tissu de camouflage et ficelé avec de la corde marron. La toile de nylon ondula à nouveau et un des agents recula avec un petit cri.
« Bien !»
Rachel prit le contrôle de la situation pendant qu'Harold descendait de l'arbre et que chacun se rassemblait autour de la forme agitée de mouvement.
« Tous ceux qui ne sont pas moi reculent. On va faire ça lentement et sans s'énerver. »
Elle enfila des surchaussures, une charlotte, un masque, des gants. La bâche était une scène de crime destinée à recueillir tout indice qui tomberait de l'enveloppe en nylon. La mission de Rachel consistait à limiter les contaminations de la scène.
« Je vais le faire », dit immédiatement Harold en voulant lui prendre le couteau des mains.
« Ça va, Harold. C'est pour ça que je suis grassement payé. »
Malgré ses rodomontades, Rachel s'approcha de la forme avec circonspection.
Pour la première fois, Kimberly sentit l'odeur. Une odeur de décomposition, légère mais pénétrante.
Harold s'accroupit au bord de la bâche. Kimberly se rapprocha de lui. Sal aussi. Ils regardèrent Rachel avancer prudemment sur le plastique bleu en examinant la corde épaisse qui partait des chevilles et s'enroulait jusqu'en haut du corps. Elle cherchait les nœuds, Kimberly le savait. Il était toujours important de les conserver. Demandez donc aux policiers qui ont enquêté sur le BTK, le tueur du Kansas. Rachel trouva le premier nœud aux chevilles. Elle se plaça quelques centimètres au-dessus, glissa la lame de son couteau sous la corde et coupa soigneusement le nylon épais. Il lui fallut un moment. Puis la corde céda et tomba des pieds. Rachel tira doucement, dégagea la corde de sous le corps et commença lentement à la dérouler. La forme tout entière bougea insensiblement, parut soupirer. Rachel se domina, continua. Elle était accroupie au-dessus de la tête à présent, la majeure partie du corps loin d'elle pour lui permettre de fuir plus rapidement. Elle retira le dernier bout de corde autour du cou. Kimberly voyait maintenant les plis du tissu en nylon, la façon dont il s'entourait autour du corps. « Bien, » dit tranquillement Rachel. « Je vais commencer par le milieu. Regardez bien, tout le monde. » Elle se leva, se pencha, attrapa à la taille le premier ourlet de tissu, tira d'un coup sec. La forme explosa. « Comme du pop-corn, » pensa Kimberly, éperdue. Le tissu détaché s'éventra et un flot d'araignées s'en déversa. Des noires, des brunes, des grosses, des petites. Créatures à huit pattes qui fuyaient désespérément leur prison de nylon pendant que Rachel reculait en hurlant et Harold se levait d'un bond en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis un coup de fusil retentit dans les arbres. Une fleur rouge s'épanouit sur l'épaule d'Harold qui s'exclama une seconde fois « Qu'est-ce que c'est que ça ?» avant de s'effondrer. « Tous aux abris !» cria Rachel qui courait déjà vers les fourrés. Cependant que Sal tombait sur Harold blessé, que Kimberly se précipitait vers son père et Rainey, pelotonnés derrière un gros rocher. Et que tous apprenaient à connaître ce que le Burgerman savait faire le mieux.